France Culture.
Bonjour le Book Club et bonjour Florence. Après les coups de cœur qui ont été Cruel, Pucelle et Jumelles, j'ai lu et dévoré même Jeune et Fauché, et une nouvelle fois j'ai adoré. C'était un plaisir de vous retrouver sur ce nouveau tome autobiographique. Vous faites une critique plutôt très très acerbe, tant sur vos parents que sur le monde de la BD. C'est la première fois que je vous lis sur un sujet un peu moins intime, plus social et presque même politique.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Des questions d'argent aujourd'hui dans votre book club où l'on se souvient qu'en avoir ne fait pas de vous quelqu'un de généreux, que bourgeoisie et pingrerie peuvent faire très bon ménage, que l'on peut étendre l'avarice à l'expression des sentiments, que n'avoir pas eu de problème d'argent ne vous protège pas d'en avoir un jour et qu'apprendre que son être, son existence, ses pensées ont de la valeur ne dépend pas du montant figurant au compte en banque. Dans sa nouvelle bande dessinée, l'autrice Florence Dupré-Latour revisite enfance, adolescence, âge adulte, conditions féminines, à la lumière de cette question de sous, redoublée d'une vocation a priori peu lucrative, dessinée. Elle est notre invitée. Ensuite, et comme chaque semaine, on retrouvera Mathilde Wagman pour parler littérature jeunesse. Aujourd'hui, elle nous parle flip book. Vous savez, ces petits livres qu'on anime en les feuilletant à toute vitesse. On est ensemble pour une heure. J'ai confié toute ma monnaie tout à l'heure au réalisateur de cette émission à la machine à café. J'ai donc plus rien. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et c'est vrai. Bonjour, Florence Dupré-Latour.
Bonjour.
Jeune et fauché. Plus tout à fait jeune. Et pas vraiment fauché, en vrai.
Plus fauché.
C'est la bande dessinée qui apparaît aux éditions d'Argo dans la collection Charivari et qui nous vaut le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le Book Club. Soyez la bienvenue. Je signale aussi l'apparition demain d'une BD qui s'appelle Les Moribonds, Florence Dupré-Latour, et ce sera aux éditions Casterman. Mais aujourd'hui, on va parler de Jeune et fauché. Et tout commence toujours au Book Club par ce qu'on appelle le questionnaire lecture. Donc on fait connaissance avec nos invités autour de la table en parlant du rapport qu'elles et ils ont eu avec les livres. Et il se trouve que dans Jeune et Fauché, vous évoquez, en début de bande dessinée, la lecture en disant que vous étiez sensible au récit des gens qui n'avaient pas d'argent et que vous vous reconnaissiez comme ça dans les héros des récits de pauvres, dites-vous, Rémi sans famille, Oliver Twist, le capitaine Fracasse, Princesse Sarah. De manière générale, vous avez eu quoi, en dehors de cette spécificité, comme rapport avec les livres dans l'enfance ?
Alors moi, j'ai vécu une enfance assez éloignée de la télévision. On n'avait pas vraiment le droit de regarder les écrans, les dessins animés. Donc, on regardait ça en cachette quand ma mère partait, ce qui était assez rare. Et j'ai tout de suite plongé dans les livres. J'ai été une lectrice tardive. J'ai appris à lire assez tardivement. Mais quand j'ai découvert ce monde, je sais pas, vers 6 ans...
Normal, quoi.
Je me rends pas compte.
Ah oui,
mais j'ai eu l'impression que...
CP,
pu...
quoi.
Ouais,
sais,
ouais.
Normal.
J'aurais pu découvrir ce monde beaucoup plus rapidement, tant il m'a fascinée. Et j'ai plongé immédiatement dans les bibliothèques roses et vertes. Assez rapidement, j'ai délaissé la littérature enfantine pour me plonger dans des livres qui n'étaient pas forcément de mon âge. Mais,
Et que vous trouviez à la maison ?
Oui, que je trouvais à la maison, qui m'ont été offerts également. J'ai lu Le Capitaine Fracasse, j'ai lu Alexandre Dumas. Je comprenais pas forcément tous les mots et tout le vocabulaire qui était déployé dans ces livres-là, mais ça n'était pas grave. Il y avait pas j'avais pas de problème à sauter un mot, une phrase qui me questionnait. J'en comprenais l'intention, et c'était ce qui comptait pour moi.
Et alors, qu'est-ce que vous avez lu, par exemple, parce qu'Alexandre Dumas, quelqu'un que vous citez quand vous parlez de vos lectures d'enfance, vous avez lu quoi de Dumas et qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans ?
Alors, Les Trois Mousquetaires, bien sûr, hein, c'est la dimension épique qui était fascinante. J'ai relu Les Trois Mousquetaires il n'y a pas longtemps, et en effet, il y a tout un vocabulaire passéiste qui n'existe plus, notamment sur la façon dont on harnache un cheval, et que je ne comprenais pas non plus petite, mais c'était pas grave, je passais dessus.
Il y a aussi le côté la bravoure, qu'il y a une figure qui revient dans la BD.
Bien sûr, l'héroïsme de D'Artagnan. Le Comte de Monte Cristo, j'ai lu ça vers 8-9 ans. Et j'ai adoré Le Collier de la Reine, bien sûr. J'étais happée, vraiment, par ces récits qu'aujourd'hui, je peux trouver parfois misogynes. Je peux leur trouver des défauts, mais c'est des choses que je ne voyais pas quand j'étais plus jeune.
Et alors après, vers quoi vous vous dirigez une fois que vous êtes armée de Dumas ?
Alors, je me suis dirigée... j'ai toujours lu de la bande dessinée. Il y en avait pas énormément à la maison, mais on avait des classiques. Tintin, bien sûr. J'ai lu énormément de Blueberry, parce que ma mère était très attachée au personnage, ce qui avait un côté séducteur. C'était un héros de western, fabuleux, qui avait tous les atours de la séduction pour moi, même petite fille, qui me plaisait beaucoup. Et on avait un album des Pieds-Niquelés. Et j'étais très marquée, bizarrement, c'est pas parce qu'on lit énormément de livres qu'on n'est pas marquée par une seule parution. Et j'ai été marquée par, au niveau du dessin, par les Pieds-Niquelés.
Par quoi ?
Par cette façon caricaturale de représenter les personnages, que j'ai retrouvée dans le manga notamment. Que j'ai découvert très tard. J'ai découvert très tard le manga avec Dragon Ball et son côté grotesque qui me plaît infiniment. Et Akira, évidemment, pour moi, un sommet de la narration, de la tension narrative et qui parle aussi énormément de voilà, politiquement, c'est très intéressant d'aller lire Akira et de le replacer dans le contexte dans lequel ça a été écrit. J'ai aussi énormément été marquée par La Famille Fenouillard de Christophe.
C'est quoi ?
Ah, c'est une bande dessinée qui... Alors, est-ce que c'est une bande dessinée ? Est-ce que ce sont des illustrations commentées ? On ne saurait le dire. C'est vraiment à cheval entre l'illustration et la bande dessinée. Et ce sont les aventures d'une famille de petits bourgeois à qui il arrive des catastrophes monumentales. Et le dessin est extrêmement expressif. Monsieur Fenouillard tombe toujours dans le purin, se fait enlever par des Chinois. Enfin bon, il y a des péripéties complètement folles qui arrivent à cette famille qui a deux filles qui sont jumelles. Et moi, qui ai une sœur jumelle, ça me parlait beaucoup. Qui s'appelle, dans mon souvenir, Cunégonde et Anastasie, et à qui il arrive des mésaventures grotesques et hilarantes.
À commencer par leur prénom.
Voilà.
Donc, si on vous imagine adolescente, Florence Dupré-Latour, on vous imagine donc avec une solide, déjà culture littéraire classique française et déjà un grand amour de la bande dessinée. Comment ça se passe, votre vie de lectrice, par la suite ?
Moi, je suis tombée dans Cthulhu et dans Stephen King à l'adolescence. Je pense que j'étais attirée par les récits de genre, les récits d'horreur notamment.
Beaucoup d'action, en fait, dans votre vie de lectrice.
C'est vrai, c'est vrai. Mais le récit de genre et le récit d'horreur me faisaient oublier l'horreur du fait de grandir, qui m'angoissait énormément. Et donc, j'ai pris vraiment un grand plaisir à lire des histoires terribles qui me faisaient faire des cauchemars, qui me faisaient avoir peur la nuit de mon placard ouvert. Chez Stephen King, il y a certaines nouvelles qui sont vraiment terrifiantes.
Mais ça vous faisait du bien?
Oui, bien sûr. J'arrivais à faire baisser mon stress, mon niveau de stress, grâce à ces lectures.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous cherchez quelque chose dans les livres ?
Toujours. Une réponse que je ne trouverai jamais, je pense, mais il y a une...
Mais il y a une question formulée ?
Non, mais une attente, sans doute. Et est-ce que c'est une attente esthétique ? Est-ce que c'est une attente sur des questions que je me pose dans de l'ordre social, philosophique, politique ? C'est très varié. Et c'est toujours pour moi un mystère de rentrer dans un livre. Voilà.
Aujourd'hui, vous avez quoi comme rapport à la lecture quotidiennement ?
Alors, j'ai des rapports assez passionnels. Parfois, je ne lis pas pendant deux semaines, et tout d'un coup.
Pas
je...
du tout.
Non. Et je me prends de passion pour un livre, et je laisse tout tomber pour ce livre-là.
Est-ce que ça vous est arrivé récemment, par exemple ?
Oui. Mais oui, j'ai lu un livre très curieux d'un auteur qui s'appelle Jacques Abeille, qui est décédé il y a peu de temps, je crois.
Et au Tripode, non ?
Voilà, qui a été réédité il n'y a pas longtemps au Tripode, et qui a publié Les Jardins statuaires. C'est un livre d'une langue tellement belle qu'elle me fait me sentir comme, je ne sais pas moi, un cafard ou un rat, une maladie, et parce que je suis tétanisée par le style de cet auteur, et qui raconte, qui met en scène une société très traditionnelle, avec les hommes qui vivent d'un côté, les femmes qui vivent de l'autre, les hommes cultivent des statues, des statues en pierre qu'ils font pousser. C'est vraiment très très beau. Et autour de ça, il y a toute une galerie de personnages qui vivent dans les marges. Donc c'est un récit sur les marginalités en réalité.
Vous avez parlé de votre sœur jumelle, du fait que ça apparaissait aussi dans une des bandes dessinées. La gémellité est aussi traitée dans votre livre Jeune et fauché. Par ailleurs, c'est un sujet que vous avez traité dans le précédent livre, Florence Dupré-Latour. Est-ce que les livres circulaient entre vous deux ?
Toujours. On se les
volait. Aujourd'hui, vous voulez dire ?
Encore aujourd'hui, bien sûr. On se les volait. J'ai le souvenir d'avoir lu des livres en essayant de ne pas me le faire tirer par ma sœur. Parce que, bien sûr, quand je commençais, je disais à quel point j'adorais Le Seigneur des Anneaux quand je suis tombée dessus. On s'est volé les tomes parce qu'on en avait un pour deux. Et donc, il y avait toujours ce rapport d'émulation, de stimulation mutuelle.
Et donc, du coup, il y a quelque chose de particulier à partager vraiment quasi en temps réel, la lecture qui est plutôt quelque chose de solitaire et d'individuel qu'on a habituellement. Là, ça se partageait plus fortement.
Oui, c'est ce rapport très curieux de la gémellité qui est une forme de coopérative maximale où on vit tout le temps ensemble. Enfin, nous vivions tout le temps ensemble, nous partagions tout et nous pensions presque tout le temps de la même manière. Une sorte de communauté d'esprit. L'une commençait une phrase, l'autre la terminait. Et donc, nous avons cette culture commune depuis l'enfance, oui.
Il y a quelque chose qui aussi, par exemple, dans une précédente BD, vous racontez comment de ce grand plaisir de la fusion depuis l'enfance, quand même, doit à un moment donné se séparer, prendre quelques chemins. Est-ce que ça s'est fait aussi sur le territoire de la lecture et de la littérature ? Est-ce que vos goûts ont pris des chemins différents ?
Non, jamais. Jamais. Quand un livre me plaît, je sais qu'il va plaire à ma sœur jumelle. Je lui ai conseillé Les Saisons de Maurice Ponce, qui est une curiosité. Tout le monde n'aime pas ce livre. Et elle a
dit c'est pour elle aussi. Quoi.
Évidemment, évidemment. Je sais que ce qui va me toucher va la toucher également.
Et donc, vous écrivez, j'ai lu ça, tiens, tu devrais lire ça.
Bien sûr.
Est-ce que vous avez une table de chevet ? Un truc qui pourrait faire office de table de chevet ?
Alors, j'ai une table de chevet, oui.
Ouais.
Oui.
Est-ce qu'il y a des livres dessus ?
Bien sûr.
Et il y aurait quoi en ce moment, par exemple ?
Alors, en ce moment, j'ai une grande bande dessinée qui s'appelle... c'est une bande dessinée d'Hélène Usdin qui s'appelle Détroit Roma, que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé. Et c'est une merveille plastique. C'est sublime. Vraiment, j'ai une très grande admiration pour le travail de cette autrice.
Eh bien, on ira voir. On va parler de votre bande dessinée à vous, Jeune et fauché, juste après ce titre phare d'un groupe qui s'appelle Les Nègres Marrons. C'est une chanson qui est sortie en 1997 au beau milieu de mon adolescence et j'y ai pensé immédiatement quand j'ai ouvert votre bande dessinée.
Yeah. Une fois de plus, c'est Nègre Marron qui vient vous parler. Non, dis-moi qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Dis-moi qui a dit que l'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais laisse-moi rire. Beaucoup de gens osent dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Que de l'amour et de l'eau fraîche suffit pour égayer leur cœur. À ces gens-là, je leur réponds de se réveiller car il est l'heure. Tout le monde sait que sans argent, tu subis le pire des malheurs. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Nous vivons dans une société où l'argent est roi. Et dans ce pays, si t'as pas de caillasse, c'est comme si tu n'existais pas. Voilà pourquoi certaines personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour obtenir quelques bouts de feuilles que l'on appelle genre A. Certaines donnent leurs fesses pour avoir quelques pièces. D'autres font la mendicité pendant plusieurs heures d'affilée pour qu'à la fin de la journée ils puissent acheter de quoi manger. D'autres préfèrent aller péta ou aller faire des cages brassées. Soit ça, ou soit devenir clochard. C'est soit ça, ou soit devenir clochard. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Benji, Benji, prends le Mikey, madame, Mikey, madame, non, je ne viens pas gollerie, seulement DJ, être à lui parler de ce fléau qu'on appelle la monnaie, cette chose pourrie, les esprits, puis petit à petit, voilà que la déprime sévit sans répit. Mais dit, pas de panique, même si la situation est critique, pas de madame, mathématique, si ça pas de patrick, tout s'explique. L'argent a pris le monopole dans la société, plus personne ne peut l'arrêter, plus personne ne peut le contrôler, plus moyen de survivre, si tu n'as plus de fric, ta vie est en jeu, tu es pris de panique. En effet, c'est la panique, c'est dans ton porte-monnaie, tu n'as plus de fric, tu ne peux plus satisfaire tes envies. Pour toi la vie est finie. Tire-toi une balle dans le crâne et arrache-toi au paradis. Wouille, arrache-toi au paradis. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
France Culture, Le Book Club, Marie Richeux.
Une bande dessinée au programme de votre book club aujourd'hui sur France Culture, l'histoire d'une enfant qui a eu de la chance, en apparence du moins. L'oseille, le fric, le blé, le pèse, les écus, les bifetons, les ronds, les sous. Lorsqu'on découvre votre personnage principal, double de fiction, Florence Dupré-Latour, dans votre dernière BD, elle est une petite fille à robe rouge et col blanc, assise tout en haut d'une très haute tour de pièces et de billets. Tout semble rouler pour elle, et plutôt sur l'or. Seulement, deux planches plus tard, c'est une jeune femme qu'on retrouve, pull rouge toujours. Elle est entourée désormais de trous gris, les poches sont vides et tirées vers l'extérieur d'un seul coup. Ce sont d'autres mots qui peuplent la page, le manque, la dèche, le dénuement, la pauvreté et l'embarras. Vous décrivez et écrivez et dessinez la trajectoire de cet être aux vêtements rouges, donc, qui apprend à s'aimer à défaut de l'avoir été suffisamment ou suffisamment tôt et essaie de se défaire du cauchemar de ne pas pouvoir payer son loyer. Jeune et fauché, c'est le titre de cet ouvrage paru aux éditions d'Argo dans la collection Charivari. Peut-être on peut la présenter, cette petite fille, jeune fille, adulte qu'on va suivre pendant toute une bande dessinée, avec ce fil rouge du vêtement rouge, Florence Dupré-Latour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle ?
Alors, on peut dire que c'est une petite fille bourgeoise. Moi, je ne cache absolument pas le fait que j'ai vécu une vie aisée, une vie multiple également, parce que mes parents ont beaucoup déménagé. Et donc, j'ai vécu en Argentine, en France, dans la campagne, aux Antilles, et puis à Lyon. Donc, c'est une vie qui a été assez riche, dans tous les sens du terme. Culturellement, mais également financièrement. Et puis cette petite fille, elle va vivre ce qu'elle ne pensait ne jamais vivre, c'est-à-dire le manque d'argent.
Une forme de déclassement dont elle va comprendre petit à petit quels sont les impacts sur sa vie quotidienne, sur son corps. Mais donc ça, c'est elle, petite fille, qui sera jeune fille, qui sera adulte. Autour d'elle, il y a, on l'a deviné, donc une sœur jumelle qu'on voit passer, c'est important. Peut-être on peut dire deux mots des parents pour planter ce décor familial, et d'une résidence importante, elle aussi, qui s'appelle Nago, et qui joue peut-être un rôle important dans l'imaginaire autour de cet être-là.
Oui, c'est vrai que l'environnement familial est très présent dans cet album, puisque dans la notion de déclassement, il y a également celle de rapport aux autres, et de rapport à la famille, de rapport aux amis, de rapport professionnel. Et je décris ma famille, mon entourage, qui ne se rend pas compte de ma situation. Alors c'est très ambivalent, parce que moi-même, je ne fais rien pour demander de l'aide. Parce que, pour plein de raisons différentes, notamment celles des raisons de honte sociale, d'imaginaire relié à la pauvreté, qui moi ça ne pouvait pas m'arriver. Je m'appelais Dupré-Latour, c'est un nom bourgeois, je pouvais pas être pauvre, et donc demander de l'aide dans ces circonstances-là à la famille était très complexe. Et la famille elle-même ne se rendait pas compte ou ne voulait pas voir l'état dans lequel je me trouvais. Mais j'avais un langage secret pour pouvoir quand même parler de ma situation financière, qui était assez catastrophique, depuis que j'étais devenue autrice de bande dessinée. Donc c'est un statut qui est très, très, très précaire, être artiste. Et mon langage secret, c'était la décrépitude de mon appartement. J'avais un appartement qui, petit à petit, partait à volo. Et je ne faisais rien pour aller contre cette espèce de mouvement qui parlait pour moi. Alors on le voit dans des exemples extrêmes, les gens qui accumulent énormément d'objets, c'est des formes d'appel à l'aide aussi. Moi, c'était le mobilier qui se casse, qui part en sucette.
L'absence de chauffage aussi.
L'absence de chauffage, mais ça se voit pas forcément. C'est très commun. Il y a une quantité assez importante de Français qui subit cette précarité énergétique, mais elle est pas très visible. On la subit, mais on la crie pas sur tous les toi, c'est pas quelque chose qui se voit comme avoir des chaussures trouées. Bon, là c'est en effet de l'ordre du visuel, on peut pas y échapper. Et donc je naviguais entre cette envie, ce besoin d'être aidée, et cette nécessité de cacher ma situation.
Et alors avant que cette femme ne subisse le déclassement et ne le vive au moment où elle commence aussi sa vie professionnelle et sa vie indépendante d'adulte, elle grandit dans un environnement où les êtres ont un rapport particulier à l'argent. Donc il y a les deux parents, la mère qui travaille à la maison, qui s'occupe de la maison, et le père qui, on le comprend, est un chef d'entreprise, voilà, qui a un travail très prenant et très, je sais pas comment dire, qui rapporte beaucoup d'argent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut décrire comme rapport à l'argent pour ces deux personnes, qui n'est pas exactement le même d'ailleurs?
Alors,
Et pour le père et pour la mère.
Oui. Alors, mes parents sont des bourgeois, mais ce ne sont pas des possédants, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui possèdent des grandes fortunes. Mon père était employé, il était salarié, mais il dirigeait des filiales de grandes entreprises en assurance. Et ma mère était au foyer, ce qui est un métier en soi, mais qui n'est pas reconnu par la société. Et donc le rapport de mes parents à l'argent était papa rapporte l'argent et maman elle le dépense dans le foyer et moi petite fille je trouvais ça tout à fait normal puisque dans le milieu bourgeois dans lequel j'évoluais je voyais cette configuration se répéter auprès des amis de mes parents de la famille et donc ça me semblait naturel. Et presque, peut-être était-ce mon destin, mais je ne me posais pas de questions d'argent.
Vous racontez aussi très bien, Florence Dupré-Latour, et vous le racontez, et vous le dessinez, comment du rapport à l'argent, on passe au rapport entre les gens, que la question de la valeur n'est pas qu'une question de valeur financière, mais dès le début de la bande dessinée, il s'agit de savoir comment on se rend compte qu'on a soi-même de la valeur, comment on croit n'en avoir pas, notamment par les mots qui sont prononcés, et comment il y a une sorte de drôle de relation qui se fait entre l'argent qu'on possède, l'argent qu'on ne possède pas, la valeur qu'on a aux yeux des autres, la valeur qu'on a pour soi-même. Est-ce que c'est l'enjeu d'écriture quand vous commencez à réaliser ce livre-là? De faire le lien entre justement la valeur financière et la valeur de ce qu'on est?
Alors, l'argent n'est jamais neutre. On pense que c'est neutre parce que on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais c'est totalement faux. L'argent est très chargé en symboles et en amour en fait ou en désamour. Et donc cette question-là, je l'ai ressentie très fortement avec mes parents qui ne me donnaient pas d'argent, qui ne subvenaient pas à mes besoins, parfois parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, parce que ça n'était pas leur culture. Il y a aussi une culture de l'argent dans les familles qui est différente d'une famille à l'autre. Et d'une culture à l'autre. Par exemple, aux États-Unis, on n'a aucun problème à parler d'argent. En France, c'est très tabou. Et ce qui m'a poussée à aller creuser ce sujet dans cet album, c'est la question du silence. Le silence que moi-même j'entretenais par rapport à l'argent, et là, c'était plus qu'un silence, c'était un tombeau. Je ne pouvais pas parler d'argent, je n'en avais pas. Il était hors de question que ça se sache. Et mes parents parlaient toujours de l'argent dans un registre de manque. Ils n'avaient jamais assez d'argent, ils étaient toujours à court d'argent.
Eux-mêmes avaient peur du déclassement.
Je pense que c'est une peur qui habite tout le monde, en fait. Et c'est un sentiment qui parfois est ressenti à tort. On peut avoir un sentiment de déclassement alors qu'on n'est pas déclassé. Souvent, pour parler de pauvreté, quand je parle de cet album, je parle de sentiment de pauvreté. Parce que c'est aussi très subjectif. Et ce sentiment-là, il peut toucher des gens qui, finalement, nous paraissent beaucoup plus riches que nous. Mais on peut avoir ce sentiment de pauvreté alors que on est, ça va bien, quoi.
Vous parlez d'une culture liée à l'argent. On va écouter la sociologue Monique Pinson-Charlot, anciennement directrice de recherche au CNRS et très spécialisée sur l'étude des classes supérieures.
Alors, ça commence dès la naissance, dès la construction, la fabrication du bourgeois, on pourrait dire, la fabrication de l'aristocrate, dès la construction des enfants, apprendre aux enfants à avoir un corps de classe, c'est-à-dire un corps qui soit maîtrisé, un corps qui soit fin, redressé. Ben, il n'y a jamais de frange pour les dames ni pour les jeunes filles. Un corps qui manifeste, si vous voulez, une supériorité existentielle. Une supériorité existentielle afin que les corps des dominés, qui eux, au contraire, sont marqués par les difficultés de la vie quotidienne, de mauvaises conditions de travail, de mauvaises conditions d'alimentation, de vie, etc. Donc des corps épais, des corps qui sont pas droits, qui sont pas voilà. Et ils arrivent avec ce travail sur le corps à transformer des privilèges qui sont sociaux en qualité naturelle, en qualité innée.
La voix de la sociologue Monique Pinson-Charlot, il y a quelque chose de très puissant dans la façon dont le dessin rend compte de ce travail sur le corps de la bourgeoisie, de la manière dont, même dans la pire dèche possible, vous ou votre double de fiction se souvient de ce qu'elle a reçu comme presque éducation physique d'un rapport à l'argent, Florence Duprelatour.
Oui, c'est même un rapport de classe. Hein. Moi, je sais d'où je viens. Je sais que j'ai un capital culturel qui est très fort. C'est une forme de richesse et un capital symbolique très, très fort. Voilà, l'expérience du manque d'argent, je l'ai vécue dans mon corps et dans mon esprit, mon caractère, ma santé mentale. Et c'est ce que j'ai envie de traduire dans cet album-là, c'est la façon dont on se tient quand on se sent pauvre, la façon dont on perd sa confiance en soi. On va se courber également sous le poids. Alors c'est une image, hein, mais elle est assez réelle. Sous le poids des soucis, on va aller plus lentement également, parce qu'on perd sa confiance en soi. Donc les déplacements sont entravés, l'esprit est entravé, la santé mentale, n'en parlons pas, hein, bien sûr, il y a des corrélations très claires entre la dépression qui s'installe et qui s'installe durablement chez les personnes pauvres parce qu'elles ne peuvent même pas se soigner. Donc c'est une sorte de serpent qui se mord la queue indéfiniment et c'est très très difficile de se sortir quand on reste dans la pauvreté d'un état mental catastrophique.
Et en même temps, vous racontez et vous dessinez comment est-ce que dans des moments où vous manquez cruellement d'argent, il y a quelque chose qui est invisible parce que vous êtes blanche, parce que vous savez vous tenir d'une certaine manière lorsque vous entrez dans un supermarché, parce que vous savez, je sais pas, vous habiller, tenir un certain discours pour rendre invisible cette pauvreté ou ce sentiment de pauvreté. Et vous le dessinez, il y a quelque chose aussi qui passe par la graphie.
Bien sûr, le dessin rend compte. C'est un langage muet que j'adore parce que moi qui suis sensible à la question du tabou, j'utilise un langage qui ne parle pas. C'est un langage visuel, le dessin, et qui parle de lui-même. Et en effet, je me représente avec mes privilèges. Je suis blanche. Quand je vais dans un magasin et que je vole de la viande, personne ne vient me tomber dessus. J'ai conscience de ça. Et donc, ça n'enlève pas la souffrance d'un passage à vide comme ça, un passage de dèche que beaucoup de personnes ont rencontré, ont vécu. Moi, j'ai lu avec attention et beaucoup d'intérêt certains livres d'Edouard Louis qui racontent justement une ascension inverse, de transfuge. Moi, je raconte l'histoire d'un déclassement. Je pense que ce sont des récits qui sont complémentaires et qui ne s'opposent pas. J'ai conscience de ces privilèges. Mais je peux pas oublier ce que ça fait que de se sentir pauvre ou de l'être vraiment, avoir peur de ne pas payer, de pas pouvoir payer son loyer. Cette terreur qui, je pense que c'est une terreur qui est très partagée, celle de se retrouver à la rue, parce qu'il y a aussi énormément de culture, de documentation, de reportage sur les personnes qui sont à la rue. Et donc c'est une peur qui est très ancrée en fait chez tout le monde.
Et c'est une peur qui se redouble dès le début de la bande dessinée par la condition féminine. Il se trouve que votre sœur jumelle tombe enceinte, ensuite c'est vous qui tombez enceinte et que la question de la précarité elle est redoublée du fait d'avoir un enfant puis un deuxième enfant et éventuellement un compagnon qui tient pas la route tant financièrement que du point de vue des responsabilités et redoublée encore d'un amour pour le dessin qui n'offre pas de carrière luxuriante immédiatement. En tout cas, on écoute un premier extrait de votre bande dessinée.
Bon, les filles, pour financer vos études, vous allez faire un prêt étudiant. hein ? Sans vraiment comprendre de quoi il en retournait, nous allâmes à la banque. Alors, 18 000 euros au nom de Florence Dupré-Latour, vous rembourserez à la fin de vos études. Signez là, là et là. Une dette. Quelque chose en moins. J'abordais encore une fois la question de l'argent sous le prisme du manque. N'y pensons pas. Je vais faire un dessin. J'adorais mes études de dessin. Chaque jour, j'apprenais un peu plus, je m'enrichissais, je prenais de la valeur. Mais les angoisses d'argent m'empoignaient constamment. Je n'ai pas d'argent pour manger entre midi et deux. Maman oublie toujours de me prendre mon abonnement pour le métro. Bien dressée au silence, je ne réclamais rien. Mais mon corps parlait, laissant entrevoir mes tempêtes intérieures. Je vais bien. Tout va bien. Gorge nouée, poitrine compressée, ventre serré, courbé, hyper maigre, tout le temps la chiasse, très nerveuse. Avec Bénédicte, nous avions rencontré des voisins complètement destroy. Si tu te rases la tête, je me la rase. Nous adoptâmes un look trash punk fait de vêtements, de papa et de fripes. Déambulant dans le quartier bourgeois lyonnais, nous tranchions, trahissant visuellement notre classe sociale. Parfois, dans le regard de papa, passait comme un voile d'incompréhension. Je voyais bien qu'il avait honte de moi.
Florence Dupré-Latour, on entend un extrait de votre livre Jeune et fauché, et la question de l'intériorité, de ce que sent, ressent, fantasme cette femme, des rêves qui la traversent, des cauchemars qui la traversent, mais aussi des sentiments d'abandon, de crainte, est très présente. Comment est-ce que vous avez trouvé, enfin, quelle solution graphique vous avez trouvée pour les rendre, pour rendre cette intériorité ?
Alors j'utilise bien sûr le dessin pour rendre compte de mes tourments, de mes tempêtes intérieures. J'utilise la métaphore. Alors pour parler de l'argent, j'ai un personnage qui est très pratique, qui s'appelle Picsou et qui revient régulièrement. C'est un personnage qui m'a beaucoup marquée quand j'étais plus jeune. D'abord parce que je lisais ça sur le journal de Mickey, qui était une parution qui était assez populaire, mais populaire dans tous les sens du terme. Ça coûtait très peu cher d'acheter le journal de Mickey ou un super Picsou géant. L'objet lui-même était un peu cheap. Et donc je lisais Picsou sur ce j'avais un peu de mépris en fait pour ces publications qui étaient auxquelles j'étais pas habituée, et le personnage de Picsou m'avait durablement marqué parce que je ne comprenais pas qu'on puisse s'attacher à un avare et qui cultivait l'avarice. Et donc j'étais très 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 choquée par ce personnage, et donc j'utilise cette forme pour parler de mes parents notamment, de l'indifférence à ma situation, de également d'une forme de capitalisme qui revient régulièrement dans l'histoire. Je l'utilise pour parler de la précarité particulière des auteurs et des autrices de bande dessinée, mais des artistes en général.
Et des mères célibataires.
Des mères célibataires, beaucoup, oui. Oui, c'est vrai. Il en est question dans l'album. Hein. Il y a une sorte de césure. Quand je me sépare, je n'ai pas de pension alimentaire et il va falloir tout gérer seul. Donc, en effet, ça rajoute. C'est une dimension qui rajoute de la difficulté à un parcours qui est un choix personnel, hein, bien sûr, moi, et que j'assume complètement le fait d'avoir voulu être autrice de bande dessinée. Mais je ne pensais pas que ça serait si difficile.
Vous mentionnez l'avarice de Picsou, mais vous faites de cette avarice quelque chose qui ne touche pas uniquement l'argent, mais peut-être plus fondamentalement l'expression des sentiments, le rapport à l'autre, le soin. Il y a par exemple un dessin où on vous voit juste attendre désespérément une attention parentale et vous êtes une sorte de tout petit être dans une très 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 grande main et que vous rêvez pouvoir vous y loger. Il y a quelque chose de l'avarice et du silence qui touche les mots d'amour, les mots de tendresse. Finalement, c'est de cela dont elle est presque la plus pauvre, cette jeune femme.
C'est très juste. très fine analyse. C'est vrai que ce qui ressort des rapports familiaux qu'a cette jeune fille, je parle d'elle à la troisième personne, mais c'est moi, eh bien, c'est une forme de rétention parentale.
Qui est aussi un fait culturel de la grande bourgeoisie, qui peut être un fait culturel de la grande bourgeoisie.
Tout à fait, et qui concerne... alors, c'est peut-être une culture, en effet, une éducation, mais d'après ce que j'ai pu voir, j'ai pu observer dans mon entourage, la fille qui transgresse, la fille d'un milieu bourgeois qui transgresse, est totalement rejetée. Alors, je ne vais pas en faire une généralité, hein, mais je, voilà, il y a des motifs dans mon entourage qui reviennent. Voilà, j'ai une bonne amie d'enfance qui vient d'un milieu bourgeois, qui a transgressé en ayant un enfant avec un Cubain. Et qui a été totalement rejeté de sa famille, financièrement, principalement. Hein. De même, une amie qui vient d'un tout autre milieu, mais qui vient d'un milieu bourgeois également, qui a eu un enfant avec un Algérien, et qui a été totalement banni financièrement de sa famille.
Au tout début de la bande dessinée, vous mentionnez que l'argent va avec le respect de certaines normes chrétiennes et bourgeoises, et que tant qu'on est à peu près dans cette route-là, et qu'on peut donner gage, montrer les pattes blanches, vous dites, Florence Dupré-Latour, alors tout va bien. En revanche, dès qu'on s'écarte de ce chemin-là, alors les robinets sont coupés, quoi, et on paye cher au sens premier du terme.
On paye très cher. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes de mon enfance où, lorsque je choisissais d'aller dans des rendez-vous chrétiens, j'ai fait des écoles de prière, je suis allée voir le pape, tout était financé par mes parents, et lorsque, avec plaisir, avec bonheur, avec enthousiasme, et lorsque je voulais aller voir mes amis au Cap d'Agde, mes amis de Guadeloupe, là le robinet était fermé, on devait se débrouiller avec ma sœur jumelle à 17-18 ans, à partir en stop, à partir du tunnel de Fourvière. C'était très compliqué, très dangereux, et donc presque inconscient de la part de mes parents, surtout de ma mère qui tenait les finances. C'est encore incompréhensible pour moi, cette mise en danger.
Mais ça veut dire que l'argent devient une vraie monnaie d'échange de l'amour, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de confusion entre la BD se termine en disant bah tant pis, il aurait fallu m'aimer plus tôt. Ça veut bien dire que l'essentiel n'est pas tellement dans l'argent qui circule, mais dans ce qui circule avec l'argent ou sous l'argent ou dans l'argent. Florence Dupré-Latour.
Bien sûr, bien sûr. Alors il y a un moment dans ma vie où je me mets en colère contre mes parents. Je tout sort. Et donc je fais du chantage à mes parents et je leur dis pour réparer les choses, je veux 150 000 euros, ce qui est totalement ridicule et grotesque. Mais c'est vrai, c'est grotesque.
Mais d'avoir cette idée-là, c'est marrant. Un jour, vous vous dites, ouais, peut-être 150 000 balles, ça
va. Oui, j'ai dit ça comme ça aurait pu être 200 000, ça aurait pu être plus, moins. Mais bon, c'était l'énormité de la somme voilà, c'est, j'estimais que j'avais été tellement délaissée dans mes années de pauvreté que c'était ce qui aurait pu réparer quelque chose. Et donc ma sœur me pose une question en me disant, puisque je lui en parle, et elle me dit, mais Florence, si les parents t'avaient donné cet argent, qu'est-ce que tu aurais fait ? Eh bien, je leur aurais rendu, puisque ça n'est pas d'argent dont j'avais besoin, mais d'avoir être sûr qu'on m'aime. Voilà, c'est pour ça que je parle beaucoup d'amour dans cette...
Et ça ne s'achète pas.
Ça ne s'achète pas, non. Non.
On va écouter la voix de Claire Bretéché en 1996 dans les entretiens à voix nue qu'elle faisait pour nous ici à France Culture. Elle se demande ce qu'est un bon dessin.
C'est pas facile d'analyser un dessin. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est très analysable, complètement analysable. Mais la plupart des gens ne sont incapables de le faire. Mais ils sentent très très violemment un dessin. Et si le dessin leur plaît, il y a des chances qu'ils commencent à lire l'histoire. Si le dessin ne leur plaît pas, il n'y a aucune chance qu'ils ne commencent jamais à lire l'histoire. C'est sûr. Et puis après, bon, bah, savoir si c'est un bon ou un mauvais dessin, ça c'est... D'abord, c'est subjectif. Et puis, ce que ça a d'objectif, c'est difficile à expliquer. Parce que ça tient au trait, ça tient à l'expression, ça tient à l'organisation dans la page, ça tient à des tas de choses. Et ce qu'on reproche souvent au dessin de BD, c'est d'être tellement scolaire et répétitif, et que ça ne mérite même pas de s'appeler du dessin. Il faut que les personnages soient très facilement reconnaissables, donc on ne peut pas les faire varier. Si on les fait varier, c'est très, très, très lentement. Et ça, la variation d'un personnage, très peu de gens y sont sensibles. Enfin, c'est une préoccupation des spécialistes, d'ailleurs, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour le lecteur. Mais quelquefois, on s'aperçoit avec stupeur, quelqu'un vous dit, Vous faites quelque chose que vous ne faisiez pas avant, il y a quelque chose de changé, etc. Alors, cette espèce de... Il y a des gens qui pigent très bien tout, mais ils sont rarissimes. Mais quand quelqu'un qui n'est pas censé s'y connaître pige un petit truc comme ça, note un petit, une petite recherche, un détail qu'on pensait passer inaperçu, c'est vraiment agréable.
La voix de l'autrice et dessinatrice Claire Bretéchet en 1996, elle parle de ce qu'est des détails, de comment est-ce qu'on peut qualifier un bon dessin, d'un personnage qui évolue aussi. On disait tout à l'heure en introduction de cette émission que vous faites évoluer votre personnage depuis la tendre enfance jusqu'au temps plus contemporain, Florence Dupré-Latour. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe dans cette bande dessinée, c'est votre rapport au dessin, à la vocation, au fait que d'un seul coup, alors que tout est tendu, désagréable et mal aimant, vous trouvez dans les cours de dessin quelque chose de si réconfortant, quoi.
Moi, j'ai pas eu le choix. En fait, le dessin, c'est un langage qui s'est imposé à moi lors de l'adolescence. J'étais très très mal dans ma peau. Je parlais très peu et j'aurais eu besoin de soins psy évidents. Et c'est par le dessin que j'ai pu exprimer ce malaise. Et j'ai trouvé dans le dessin un langage qui me correspondait complètement. Et dans la bande dessinée en particulier, qui est un langage de l'ellipse, un art de l'ellipse. L'ellipse, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est également en écho avec tous les non-dits de la famille. Donc tout ce qui n'est pas dit, on l'imagine. C'est exactement ce qui se passe avec la bande dessinée. Et donc pour moi, ça a été une découverte fondamentale, le dessin et la bande dessinée.
Et après, ce que dit aussi Bretéchet, l'idée que on met énormément de temps à travailler dans le détail un dessin et que quand on est enfin comprise, alors que c'est discret, presque ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir inventé un langage pour se faire comprendre sans avoir trop besoin de se dire, est-ce que c'est aussi ça que vous trouvez dans la bande dessinée ?
Alors moi j'ai un dessin qui semble simple. Je vais vers une simplification des formes, mais parce qu'elles me permettent de traduire des sensations que je ressens en dessinant. Je vis le dessin, mais comme beaucoup d'auteurs, de dessinateurs, et donc je vais chercher l'expressivité des personnages pour essayer d'être au plus proche de ce que je ressens en travaillant.
Et en même temps, le dessin, c'est aussi ce qui redouble la précarité de cette femme au moment où elle est jeune mère, au moment où elle épouse cette carrière qui lui fait tant envie. Parce que c'est très difficile, notamment quand on commence de vivre de son art. On écoute un deuxième extrait de Jeune et Fauché.
L'angoisse de ne pas pouvoir payer le loyer me prenait à la gorge. Être pauvre, seule, peu m'importait. Mais être pauvre avec des enfants multipliait mes craintes. La terreur devenait exponentielle. Vite, vite, je dois finir. Vite, 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 emmener les enfants à la crèche. Vite, 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 retourner travailler. Gratte, gratte. Je vivais dans la panique du manque d'argent. Et j'avais raison de m'en inquiéter. Mes bandes dessinées ne se vendaient pas. Les avances que me proposaient les éditeurs fondaient. Je ne peux pas reprendre le boulot de vendeuse. À l'intérieur de moi, il y a un truc précieux, un feu. Ce feu allait forcément sortir d'une manière ou d'une autre. D'où me venait cette certitude ? Florence, le directeur veut te voir. Le directeur ? J'ai fait une bêtise. J'avais 9 ans, lorsque, dans la petite école de musique où je me rendais chaque mercredi, le directeur, un vieux prêtre, me convoqua. Florence, regarde-moi. L'aspect cérémonieux de cet entretien m'avait alors beaucoup impressionnée. Le soleil pâle de l'après-midi tamisait les boiseries du bureau. Un jour, tu feras de grandes choses. De grandes choses. De grandes choses. De grandes choses, oui, mais lesquelles ? De toute façon, c'est impossible. Je dis bien trop de gros mots. Mais cet oracle était resté imprégné dans mon jeune esprit, revenant me chuchoter à l'oreille. De grandes choses, Florence, de grandes choses. Et je m'étais dit bêtement que cette grande chose pourrait être la bande dessinée.
Un deuxième extrait de votre livre Jeune et Fauché, Florence Dupré-Latour. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une bande dessinée sur quelqu'un qui a tenu bon sur son désir, qui a tenu bon sur sa vocation, qui a fait confiance aux petites voix qui lui disaient « tu feras des grandes choses et pourquoi pas de la bande dessinée ?»
Alors, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Mmh. C'est vrai que j'ai été marquée par cette parole qui venait d'un prêtre, donc une figure d'autorité. Mais avec le recul, je me demande si ce prêtre ne disait pas la même chose à tous les enfants. Mais voilà, on peut être porté par un professeur, par un parent, un oncle, une tante qui nous fait confiance. Et j'avoue que j'ai été portée durant mes études notamment par des gens qui m'ont donné confiance en mon dessin, qui m'ont dit que ce que je faisais avait de la valeur. Et dans un parcours...
Contrairement, qui venait répondre à « tu vaux rien, vaut rien
ouais, »,
voilà, qui était aussi progressé.
Mmh. C'est vrai. Et même dans le cadre familial, hein, quand je revenais de mes études avec de mes cours de dessin avec des dessins impressionnants, puisqu'on faisait beaucoup de dessins académiques, j'étais validée par la parole de mes parents qui me disaient c'est bien, c'est beau, et donc j'ai pu continuer ce cheminement qui est difficile, hein, qui est pas évident, de se remettre toujours en question, d'essayer de trouver ce qu'on veut dire, comment le dire. C'est un cheminement esthétique également, qui demande une certaine culture, mais qui demande aussi d'être accompagné et bien accompagné.
On va écouter la voix de Paca, auditeur du Book Club. Il a lu Jeune et Fauché, mais vous avez lu aussi avant. Et il a trouvé qu'il y avait une sorte de petit changement dans la bande dessinée.
Bonjour le Book Club et bonjour Florence. J'ai lu et dévoré même Jeune et Fauché, et une nouvelle fois j'ai adoré. Vous faites une critique plutôt très très acerbe, tant sur vos parents que sur le monde de la BD. Concernant vos parents, ça fait déjà quelques tomes qu'ils en prennent pour leur grade, mais concernant le monde de la BD, j'étais agréablement surpris. C'est la première fois que je vous lis sur un sujet un peu moins intime, plus social et presque même politique. C'est une voie sur laquelle vous aimeriez continuer ? Par exemple, quand on voit comment le vieux monde de la BD à papa est en train de changer grâce à une poignée de jeunes auteurs, et surtout d'autrices, et que vous-même avez soutenu le boycott du prochain festival d'Angoulême, est-ce que ça pourrait être là le thème d'un nouveau volume de la saga du Prélatour ? Merci Florence pour votre réponse.
Et merci à vous Paca pour ce compte-rendu de lecture et cette question. D'une part, est-ce que vous avez l'impression avec Jeune et Fauché d'avoir fait une BD plus politique que d'habitude, et est-ce que vous voyez venir d'autres sujets politiques en projet ?
Alors, en effet, elle est plus frontale. J'ai toujours eu dans mon travail autobiographique en tout cas une posture engagée, notamment sur des sujets de domination. Que ça soit dans mon travail sur les animaux, mon travail sur le rapport à la sexualité, à la gémilité, au double. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je traite de l'argent, on peut penser que c'est plus politique, parce que j'en parle aussi peut-être avec moins de... Je ne vais pas dire que c'est moins romanesque, hein, parce que c'est une aventure que de se retrouver pauvre dans la pauvreté.
Et puis on a vu toutes les dimensions intimes que ça pouvait recouvrir.
Bien sûr, bien sûr. Mais je parle très clairement d'argent, c'est-à-dire combien je gagne. C'est en effet plus frontal. Je parle également des conditions de travail dans lesquelles j'exerce. Je parle d'un sujet notamment qui s'appelle la continuité des revenus, auquel les artistes auteurs aimeraient pouvoir accéder et qui a été retoqué au Sénat.
Vous voulez en dire deux mots pour préciser?
Oui, la continuité des revenus, eh bien, c'est un dispositif qui n'est pas encore en place, hein, mais que les artistes auteurs aimeraient voir advenir, et qui est une sorte de chômage pour les artistes auteurs, avec un financement qui ne mettrait pas à mal, en tout cas, l'assurance chômage, hein, donc un financement indépendant. Et ça permettrait aux auteurs et aux autrices de sortir de la précarité, de sortir de l'incertitude, de sortir de contrats déséquilibrés avec des éditeurs ou des producteurs. Il n'y a pas que les auteurs de BD, hein, c'est vraiment tous les artistes auteurs. Et donc, y a tout un fantasme qui existe autour des artistes auteurs, un fantasme, on va dire, 19e-iste, qui fait penser que les auteurs créent mieux quand ils sont pauvres. C'est totalement faux. On ne crée pas bien quand on est pauvre, on crée uniquement de la misère et des angoisses. Et moi-même, je n'ai pu réussir vraiment à écrire que quand j'étais dans des circonstances correctes de vie financière.
Et Paca, notre auditeur, soulignait aussi ce milieu dans lequel vous évoluez, et le fait que vous ne torpillez pas seulement votre famille, mais aussi un milieu machiste et à certains endroits pas assez progressiste. Et il vous demande si vous avez l'intention d'écrire plus avant sur ce sujet-là.
Sur le milieu de la bande dessinée, ça n'est pas prévu. Mais ça va irriguer de toute façon tout mon travail, donc ça ressortira d'une manière ou d'une autre ailleurs, sans doute.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme chaque semaine on vous retrouve, Mathilde Wagman, je suis obligée de dire à tout le monde que 2026 vous voit arriver avec des nouvelles lunettes.
Bon ben, c'est fait.
Je suis complètement fan. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous poursuivez votre série sur les formes à contraintes dans la littérature jeunesse.
Absolument Marie, je vous ai déjà parlé ici de l'imagier, de l'abécédaire ou des albums Cherche et Trouve. Aujourd'hui, je vous parle du flip book, soit ces livres de petit format qui se feuillettent avec le pouce, feuilletage qui donne l'illusion du mouvement, créant ainsi une courte séquence animée. Et ce, grâce au phénomène de la persistance rétinienne, grâce à laquelle notre œil et notre cerveau comblent en quelque sorte l'espace entre deux images. Le terme de flip book vient du verbe anglais to flip over ou flip through, feuilleter. Il s'est progressivement imposé au profit du français folioscope. Grâce au site que leur consacre l'historien Pascal Fouché, j'ai appris que l'on ne sait dater exactement la naissance de ces objets, mais qu'ils furent en tout cas popularisés au 19e siècle, quelques décennies avant l'invention du cinéma, à cette période d'effervescence en termes d'invention technique, donnant l'illusion du mouvement. Leur dimension tactile et ludique en font de petites merveilles d'objets livres pour les enfants.
Et alors, vous dites que ça rentre dans une série que vous consacrez aux livres à contraintes, dans le cas du flipbook. Du flipbook, c'est hyper dur à dire.
C'est assez dur à dire.
Quelles sont les contraintes ?
Comme le book club. Il s'agit de créer, à partir d'une suite d'images de petit format, une narration muette et ultra condensée pour former un récit de quelques secondes qui figure un mouvement. Les flipbooks offrent, à partir de ce canevas, une infinité d'explorations possibles. Ils mobilisent des techniques aussi variées que le dessin, la peinture, le découpage, le collage, peuvent figurer des formes abstraites ou personnifiées, raconter une histoire, évoquer un geste, faire rire ou émouvoir. Si j'ai choisi de vous parler de ce genre de livre pour cette première chronique de l'année, c'est que 2026 marque un anniversaire en la matière. Cela fait 25 ans que les éditions Flubbelub ont publié leur tout premier flipbook. Cette maison d'édition indépendante basée à Poitiers, qui publie des bandes dessinées et des romans photos, et dont le nom s'écrit FLBLB et se prononce donc Flubbelub ou Flubbele. C'est en gros le bruit que je vous ferais, Marie, si je vous faisais une grimace en vous tirant la langue. Cette maison s'attache donc aussi, depuis ses tout débuts, à faire vivre cette forme. C'est l'une des marques de fabrique de son catalogue. Catalogue qui compte une soixantaine de flipbooks qui offrent un bel aperçu de la variété des matières, des manières, des tonalités et des styles que l'on peut explorer à travers cette forme. Aux contraintes déjà évoquées, la maison a eu la belle idée d'en ajouter une supplémentaire. Chacun de ces flips propose en effet deux histoires pour le prix d'une. Une première au recto, une seconde au verso. L'anniversaire est célébré à travers une série d'événements rassemblés sous le titre « La fête du flip ».
Évidemment, quels sont ces événements ?
D'abord, la parution toute récente de quatre nouveaux titres aux couvertures rose-orange vif et au dessin encre marine. Par exemple, le très joli chat pot en deux mots, plante chat, signé Lénon, soit le parcours d'un chat qui va de sa gamelle jusque dans le pot d'une plante dans laquelle il se terre, au recto, et au verso, la naissance du même chat né d'une branche de la plante comme Ève est née d'une côte d'Adam. Ou encore la poule et le couteau, la taupe et les lunettes de Lucie Castel, l'histoire d'une poule samouraï qui trouve sur son chemin un couteau et s'emploie sans succès à trancher la tête d'une taupe à lunettes, tandis qu'au verso, la taupe se venge et foudroie de son regard émetteur de rayons laser le malheureux gallinacé transformé en poulet grillé. Dans ce même registre des flips fables, à mi-chemin de l'absurde, du gag et de la poésie visuelle, les éditions avaient lancé il y a 10 ans une série mettant en scène des duos d'animaux autour du thème « La petite bête qui mange la grosse », dont certains nombres signés Otto T, alias Thomas Dupuis, l'un des fondateurs de la maison. Je recommande tout particulièrement l'aigrette et l'escargot, où une grande aigrette, déterminée à faire d'un tout petit escargot son casse-croûte, s'y casse le bec. Il y a aussi la série des flips de sport, variation sur des corps à l'élasticité magique, tel le merveilleux « Grosse nouille, petite saucisse » de Lucie Castel encore, mettant en scène un haltérophile dont la masculinité triomphante est quelque peu moquée. Mentionnons pour finir la série des flips ayant recours à la photo ou à la vidéo, et parmi ceux-là, le très beau « On fait la course, on fait du toboggan » de Nicole Augereau et Grégory Jarry, côté face un couple de parents qui font la course avec leur petite fille, et les parents vont plus vite car l'enfant est toute petite, côté face la petite côté pile, la petite qui descend du toboggan, suivie de ses parents, cette fois-ci bien empesée, tandis qu'elle s'envole. Le noir et blanc, le grain, la qualité de ces images, semblant issues d'un film au caméscope des années 90, leur donne un air d'archive, des images dans lesquelles chacun peut projeter un souvenir, un petit instantané de vie arraché à l'écoulement du temps. Comme celle de tous les flips de la maison, ces images transpirent aussi la joie à les avoir fabriquées, et l'on se surprend à avoir envie d'en faire à notre tour.
C'est clair. Et justement, les éditions Flubalub organise un grand jeu concours pour célébrer cet anniversaire.
Oui, il est ouvert à toutes et tous, sans limite d'âge pour participer. Il faut créer entièrement un flipbook à la façon de ceux édités par la maison, 72 pages recto et verso, réalisées directement sur papier, sans logiciel d'animation. Le flipbook lauréat sera édité et diffusé en librairie. Je précise enfin que chacun de ces flips coûte environ 5 euros. Merveilleuse idée cadeau, donc à trouver dans tout plein de bonnes librairies.
Et on demande un bruitage, donc je vais me faire le plaisir de... Encore ? On fait un petit ASMR flipbook. T'es content, ça te va ou pas, Vivien ? T'en veux encore ? Le lien vers toutes les infos à retrouver sur le site de la chronique lecture jeunesse franceculture.fr ou appli Radio France. Merci beaucoup Mathilde. Et on a rendez-vous avec le grand jeu des pages musicales. Nous cherchons tous les jours à trouver de la musique dans les livres et on vous propose, auditrices et auditeurs, de jouer avec nous. Pour cela, vous pouvez envoyer des extraits de textes où vous voyez surgir de la musique via l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram où Alexandre Alaï-Begovic fait la collection comme ça de vos pages musicales. Et une certaine Oriane D. a envoyé un extrait via Instagram. Elle a choisi un extrait du Club des enfants perdus, un roman signé Rebecca Alighieri, paru chez POL en 2024. J'avais 20 ans la première fois que j'ai prêté attention aux paroles de Smells Like Teen Spirit. J'avais peut-être déjà écouté la chanson, mais je n'en gardais aucun souvenir. Je ne sais même pas si je connaissais l'existence de Nirvana. Toujours est-il qu'en entendant « I feel stupid and contagious », j'ai dressé l'oreille. Je me sentais plus contagieuse que stupide, mais ça me parlait. Comme me parlait la voix de Kurt Cobain, cette voix à la fois agressive et plaintive. En quelques clics, j'ai su tout ce qu'il y avait à savoir sur lui, depuis son enfance erratique jusqu'à son suicide au fusil de chasse. Et surtout, j'ai lu sa lettre. Sa dernière lettre, adressée à un ami imaginaire. Je l'ai d'abord lue en anglais, déchiffrant l'écriture script de Cobain et cherchant à percer le mystère de ses ratures. Puis, je l'ai traduite à ma façon et recopiée plusieurs fois, histoire de lui imprimer ma propre graphie, de me l'incorporer, jusqu'à pouvoir en réciter des passages entiers. Et enfin, je l'ai comprise, vraiment comprise, jusque dans sa contradiction majeure, sa haine de l'humain et son amour des gens. Cobain était mort d'un excès d'empathie. Ce jour-là, j'ai appris du même coup que j'avais un frère et que je l'avais perdu. J'arrivais trop tard pour le sauver, pour lui dire que j'étais comme lui, trop poreuse, trop sensible, trop traversée par la souffrance des autres, trop torturée par le dégoût et par l'amour que m'inspirait l'humanité. Sans cesse contaminée et sans cesse contagieuse. Hello, hello. Merci beaucoup Florence Dupré-Latour d'avoir été avec nous pour évoquer votre bande dessinée Jeune et Fauché, parue dans la collection Charivari chez Dargaud. Et je signalais apparaître demain Les Moribonds, paru aux éditions Casterman. Au son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club.